Oui, la semaine dernière, les chrétiens du monde entier avaient les yeux rivés vers l'Orient où pour la première fois, un pape foulait le sol irakien. Retour à Toulouse ce matin où l'association ECHO pour entraide aux chrétiens d'Orient a accueilli jusqu'à 40 familles à partir de 2014. 40 familles évidemment originaires d'Irak. Bonjour Philippe Rodier.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de l'association ECHO, vous êtes par ailleurs diacre pour le diocèse de Toulouse depuis 2019. Alors avant de vous donner la parole Philippe, je vous propose d'écouter Joseph, celui par qui tout a commencé.
Moi je fais partie d'une association Entraide aux chrétiens d'Orient afin qu'on puisse aider les familles qui sont persécutées, qui sont trouvées dans une situation très difficile en plein Ninive, à Mossoul, ma ville où j'ai vécu. On a pu recevoir des familles sur Toulouse et un peu partout en France, 45 familles. Donc, franchement, moi je suis très content d'entendre cette nouvelle que la visite de Pape a visité mon pays natal. Je suis content aussi de cette visite qui va faire connaître à tout le monde qu'il y a encore des chrétiens dans l'Orient et surtout en Irak. Que ce soit d'Orient ou occidental, nous sommes toujours ensemble dans la paix de Christ.
Voilà Philippe, il va falloir nous présenter Joseph qui a publié ce message sur le site du diocèse de Toulouse à l'occasion du voyage du pape la semaine dernière.
Tout à fait. Alors Joseph, en fait, il est plus que membre de l'association ECHO, il en est le cofondateur puisqu'il en est aussi le vice-président. En fait, j'ai connu Joseph en 2013, son CV est arrivé sur mon bureau, il cherchait du travail, et donc je l'ai rencontré, je l'ai aidé à trouver un travail chez un de mes sous-traitants à l'époque, et voilà, il parlait pas très très bien français encore à ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'il était arrivé en France, après que son frère aîné ait été assassiné devant chez eux, il a dû fuir en 24 heures avec sa femme et sa fille de sa maison, de sa famille, de son pays, parce qu'on lui avait fait passer le message qu'il serait le prochain sur la liste à être exécuté. Et voilà, j'ai connu comme ça en France et je l'ai aidé un peu à trouver du travail, à s'améliorer en français, à refaire sa vie ici. Et puis en 2014, on sait tout ce qui s'est passé, on a suivi les médias, Daesh a envahi tout le nord de l'Irak et de la Syrie, Mossoul est tombé et puis à ce moment-là, Joseph avait encore de la famille là-bas évidemment. Et ils ont tous fui et donc en plein été. J'étais en vacances, il m'appelle en me disant qu'il a sa sœur qui est là-bas, sur les routes, en train de trouver refuge et qu'il aimerait la faire venir en France. Donc on a remué ciel et terre pour trouver une solution pour arriver à la faire venir en France avec son mari et ses enfants. Et voilà, ça a été le début d'une longue aventure, puisque après sa sœur, ça a été ses beaux-frères, etc. Puis de plus en plus de monde. Donc est arrivé à un moment en septembre 2014 à la rentrée, où avec d'autres paroissiens, d'autres fidèles du diocèse de Toulouse qui l'entouraient aussi comme moi, on s'est dit que là il fallait
structurer.
Qu'on se structure un peu, qu'on s'organise et on a lancé l'association Entraide aux chrétiens d'Orient.
Et ECHO est né ainsi de la générosité et donc de Joseph qui aujourd'hui est le patriarche d'une communauté, vous m'avez dit, de 40 familles hein.
C'est ça, à peu près. Alors, en tout, on n'a qu'une petite quarantaine de familles, essentiellement d'Irak, mais aussi un peu de Syrie, d'Arménie ou d'autres lieux. La plupart d'entre elles, environ 36 d'entre elles, sont à Toulouse, enfin dans le diocèse de Toulouse, mais certaines sont ailleurs, du côté de Cahors ou à Lyon, à Rennes, à Nantes. Enfin voilà, parce que pour des raisons familiales ou autres, certaines ont fait le choix d'aller dans d'autres villes parce qu'elles avaient un enfant là-bas ou autre. Ou un cousin. La plupart sont effectivement à Toulouse. Oui.
Comment est-ce que vous avez réussi à les loger toutes ces familles? Parce que ça fait du monde. Il y a des enfants là dans tout ça.
Et oui, tout à fait. Alors, fort heureusement, donc elles ne sont pas toutes arrivées en même temps. Donc, ça s'est étalé dans le temps sur plusieurs années. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu un moment au plus fort de la crise. On avait jusqu'à 4 ou 5 familles en simultané. Et en fait, on a réussi à les loger grâce à la générosité de personnes, de fidèles, essentiellement des gens qui avaient un petit appartement, un petit studio, une maison vide, etc. Et qui ont accepté de nous prêter leur logement pendant plusieurs mois ou parfois même quelques années. C'était en fait une forme de don en nature. Au lieu de nous faire un don en argent, ils nous faisaient ce don en nature et en contrepartie, nous, on le déclarait et ils pouvaient le défiscaliser. Donc, ils ont déclaré que l'équivalent du loyer, en fait, et pour eux, donc, ils pouvaient le défiscaliser. Donc, et grâce à cette générosité, à ces prêts de logement, on a pu loger comme ça des familles à droite à gauche. Parfois, on s'appuie aussi sur des communautés chrétiennes, sur le couvent des Dominicains, par exemple, qui a hébergé parfois pendant quelques semaines ou quelques mois une famille, le temps qu'on trouve une solution. Voilà, on a fait comme on a pu, mais
Mais vous avez fait et bien fait.
Ouais. Ben oui, et puis surtout, la Providence a toujours pourvu.
Elles étaient dans quel état, ces familles, quand elles sont arrivées ?
Ben, elles étaient détruites, enfin, elles étaient désespérées, elles avaient tout perdu, hein, tout perdu. Vous savez, les chrétiens en Irak, enfin, beaucoup de chrétiens avaient des situations plutôt quand même assez correctes, parce que c'était des gens qui étaient en général plus éduqués que la moyenne, hein, parce que les écoles chrétiennes ont très bonne réputation dans le monde entier, mais en particulier en Orient. Et donc c'était des familles qui avaient plutôt des bonnes situations. Alors je sais pas, les auditeurs qui connaissent l'Orient savent de quoi je parle, mais vous savez, là-bas les maisons sont grandes, et puis c'est par étage, hein, vous avez les grands-parents qui sont au premier étage, l'aîné qui est au deuxième étage, etc., etc. Donc il y a une vie familiale, une vie communautaire de famille très très forte. Avec beaucoup d'entraide, hein. Les maisons de retraite, ça n'existe pas chez eux. On s'entraide et voilà, on vit dans sa maison jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on se transmet son patrimoine. Et donc, voilà, les familles ont en général un patrimoine acquis depuis des générations. Elles étaient bien installées, elles avaient en général de beaux métiers. Et elles ont tout perdu. Elles ont perdu leur maison, elles ont perdu leurs biens. Certaines d'entre elles ont réussi à arriver en France avec un peu d'argent, en ayant eu le temps rapidement de vendre leur voiture. Mais voilà, donc elles sont arrivées détruites parce qu'elles quittaient leur pays et qu'elles avaient le sentiment qu'elles n'y retourneraient pas.
Les témoins d'horreur, les horreurs de la guerre.
Et oui, voilà. Et puis elles savaient que, elles voyaient tout ce qui se passait. Elles savaient que ce qui se passait. Beaucoup d'entre elles ont perdu un frère, un cousin qui a été assassiné. Elles arrivaient dans un pays dont elles ne parlaient pas la langue, dont elles ne comprenaient pas les codes culturels, les codes administratifs. Donc c'était très dur. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre elles, ce qui était rassurant, c'est qu'elles arrivaient justement ici, accueillies par d'autres familles d'Irak avec notre association, ce qui fait qu'elle ne s'en trouvait pas toute seule.
Elle n'était pas totalement perdue.
Non, pas tout à fait, oui.
Il y a encore des chrétiens en Irak, hein, nous dit Joseph, justement, dans l'extrait que nous avons entendu en marge de notre entretien. Dimanche dernier, dans l'église de l'Immaculée Conception de Karakoch, hein, où le pape s'est rendu, il a adressé justement un vibrant et émouvant message au peuple irakien. « Vous n'êtes pas seul », leur a-t-il dit. « L'église du monde entier est avec vous. Reconstruisez », a-t-il lancé le pape aux rares personnes qui avaient la chance d'être là. Pour les familles que vous avez accueillies, Philippe Rodier, est-ce que la question se pose de revenir à Mossoul, qui, je le rappelle, était la capitale, hein, de Daesh ?
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, non, elle ne se pose plus. Il y a eu quelques familles, les premiers temps, qui avaient encore un peu l'espoir de pouvoir repartir. Mais très vite, cet espoir est retombé. Aujourd'hui, l'immense majorité des familles que nous avons accueillies n'espèrent plus repartir en Irak, ou n'ont même plus le désir de repartir en Irak, parce que d'abord, elles ont tout perdu là-bas, elles n'ont plus rien, tout a été détruit, leurs maisons ont été saccagées et pillées, donc elles savent très bien que même si elles pouvaient repartir, ce serait presque un deuxième exil de nouveau. Il faudrait abandonner tout ce qu'elles ont construit ici en France et reconstruire encore là-bas. Bon, voilà, donc elles n'ont pas envie. En plus, elles n'ont plus envie de repartir parce qu'elles n'ont plus confiance. Elles n'ont plus confiance dans leur société d'origine, dans la société irakienne. Elles n'ont plus confiance dans leurs voisins, dans leurs amis musulmans. Vous savez, quand vous discutez avec eux, ils vous disent qu'à chaque siècle, il y a eu des drames. Au XXe siècle, ça a été le génocide syriaque par les Ottomans. Le siècle d'avant, ça a été encore autre chose. Et ils vous disent, nous, depuis 1300 ans que l'islam a envahi l'Irak, nous vivons comme des citoyens de second rang, où nous vivons persécutés. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cet événement a été une espèce de goutte qui a fait déborder le vase. Elles n'ont plus envie de repartir parce qu'elles n'ont plus confiance dans l'avenir, elles n'ont plus confiance dans la cohabitation avec l'islam, elles n'ont plus confiance dans leurs voisins dont elles ont le sentiment qu'ils les ont trahis, parce qu'en général, ils ont laissé les clés de leur maison et leurs affaires à leurs voisins, et ils ont appris par la suite que les voisins avaient tout donné aux combattants de Daesh pour les héberger avant qu'ils pillent tout et qu'ils détruisent tout quand ils ont à leur tour fui face à l'armée irakienne. Donc voilà, elles n'ont plus confiance dans l'avenir, donc elles n'ont plus envie de repartir. Vous savez, je pense qu'on peut faire un parallèle un peu avec les pieds noirs. Hein. Les pieds noirs, quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont refait leur vie en France. Il y en a très 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 peu qui sont repartis en Algérie, parce que pour eux, c'était presque encore un deuxième déracinement et reconstruire quelque chose là-bas. Ben, je pense que les chrétiens d'Irak ou de Syrie, c'est un peu pareil.
Ça veut dire que le message, l'appel à la paix du pape, hein, dans la plaine de Ninive, c'est un peu un appel dans le désert à vous entendre. Hein. La paix là-bas, la coexistence entre islam et chrétien a l'air fragile.
Bah, eux pensent que c'est fragile. Alors, ils espèrent y croire. Enfin, ils sont très heureux de ce voyage du pape et de tout ce qu'il a dit. Ils ont évidemment, au fond de leur cœur, ils ont quand même ce secret désir que les choses s'améliorent, parce que ça reste leur pays de cœur, leur culture, leurs racines. Mais ils y croient assez peu. Ils vous racontent qu'à l'époque de Saddam Hussein, qui était un certains dictateurs, mais un laïc. Hein, à l'époque, Saddam Hussein, ou de Hafez al-Assad en Syrie, c'était la Syrie comme l'Irak étaient des États laïcs, des États socialistes laïcs, où l'islam n'avait pas sa place officiellement. Ils vous disent que malgré cela, malgré qu'on était dans des États laïcs, ils ont toujours été considérés comme des citoyens de second rang. Certains emplois, certains métiers leur étaient interdits, non pas dans les textes, mais dans les faits. Et ils étaient toujours un peu discriminés. Donc, ils disaient, de toute façon, on est face à l'islam, on est toujours discriminés.
Et l'islam, ils l'ont retrouvé en France également. Comment est-ce qu'ils réagissent ?
Eh bien, avec beaucoup d'étonnement. En fait, ils sont très étonnés de notre naïveté. Ils sont très inquiets. Ils sont inquiets pour la France, ils sont inquiets pour l'avenir de l'Europe, des anciens pays de chrétienté, parce qu'ils voient l'islam qui est très installé, qui se développe, et ils peuvent avoir des propos parfois très très durs, très alarmants, nous disant « mais vous vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce que c'est que l'islam, vous avez une vision très, très soft, très erronée, très idéaliste ». Mais c'est pas ça l'islam. Et donc ils sont un peu inquiets de voir ce qui se passe. Ils sont inquiets de voir. J'ai l'exemple d'une famille qui a mis sa fille dans un collège catholique de Toulouse où il y a plus de petits musulmans que de non musulmans ou de chrétiens. Et bien cette petite fille qui a 14 ans, elle est discriminée à longueur de journée. Et là on était à deux doigts de la sortir du collège il y a quelques semaines. Bon, finalement elle a fait le choix de rester jusqu'à la fin de l'année, mais elle va changer de collège l'an prochain parce qu'elle est en permanence discriminée vis-à-vis des autres, parce que les autres ont perçu qu'elle n'était pas musulmane comme eux. Et ils ne comprennent pas pourquoi, ils n'apprécient pas ça. Donc il y a un autre exemple d'une famille qui a voulu mettre son enfant dans une école. Quand ils sont allés voir le directeur, ils ont vu plein de femmes voilées à la sortie dans la rue. Ils n'ont même pas essayé d'inscrire leur enfant, quoi. Ils sont partis. Ils recherchent des écoles chrétiennes, ils recherchent un environnement chrétien, comme ils l'avaient chez eux dans leur communauté chrétienne, et ils ont du mal à le retrouver.
Et ils ont du mal à le retrouver en France. Il faut dire que ces familles, effectivement, on sent un tempérament trempé, très entier. Ils ont fui parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur foi. Et une foi, une foi marquée et marquante, hein, m'avez-vous dit en préparant cet entretien, une foi qui, en fait, est presque leur identité. Ils sont chrétiens avant tout.
Tout à fait. Ils sont orientaux, ils sont clairement arabes, hein, ils se revendiquent comme tels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes codes culturels, les mêmes manières toujours de penser ou de s'exprimer que nous. Ils sont vraiment des orientaux. De ce point de vue-là, ils sont beaucoup plus proches des musulmans que de nous. Mais en revanche, ils sont chrétiens totalement affirmés. D'ailleurs, s'ils sont là, c'est à cause de ça. Hein. Ils auraient pu renier, faire même semblant d'adhérer à l'islam. Non. Ils ont assumé, ils ont tout perdu pour ça. Donc ça fait partie de leur gène, ça fait partie de leur identité. Ils ont une identité chrétienne très forte et c'est normal parce qu'ils étaient minoritaires.
Elle se traduit par quoi, cette identité très forte ?
Ah ben, vous la voyez, ils auront tous dans leur voiture un chapelet qui pend à leur rétroviseur. Vous allez chez eux, dans toute maison chrétien d'Irak ou de Syrie, vous aurez toujours dans le salon un tableau avec la Sainte Scène du Christ. Vous aurez toujours une icône de la Sainte Famille.
Et c'est pas du décorum.
Et c'est pas du décorum, non. Ils vous invitent à déjeuner chez vous. Ils font toujours les bénédicités au repas. Ils jeûnent le vendredi, tous les vendredis de l'année, et pas que le vendredi saint. Ils ont une foi très très ancrée, très très marquée. Ça fait vraiment partie d'eux. Et voilà, ils sont dans une foi qui a, comment dire, ils sont dans un enthousiasme de leur foi. Et c'est vrai qu'ils nous trouvent, nous,
Tiède.
Un peu tiède.
Voilà. Bien sûr, eh oui. Comment ils réagissent justement face à nous qui sommes des enfants gâtés en fait du christianisme ?
Eh ben, ils sont, au début, ils sont très étonnés quand ils sont arrivés. Ils s'attendaient à trouver un pays chrétien, comme eux, leur pays à eux, là-bas, était musulman. Et en fait, les premiers temps, ils se rendent compte que la France n'est plus un pays chrétien, même s'il est de culture encore judéo-chrétienne, mais ce n'est plus un pays chrétien. Ils découvrent que l'État français est laïque, ils découvrent ce que c'est que vraiment la laïcité, ils découvrent que c'est une laïcité quand même assez, assez revendicative, enfin c'est voilà, un peu anti-religion d'une certaine manière parfois, en tout cas ça peut en avoir des relents. Ils découvrent un pays où il y a une nuit de la foi, où les gens sont dans l'indifférence, ils se posent même pas la question. Et ça les étonne parce que dans leur pays, la foi, qu'elle soit chrétienne, musulmane, druze, chiite, ce que vous voulez, elle est très présente. On ne peut pas ne pas avoir la foi dans ces pays-là. C'est ancré dans les mœurs. Vous connaissez les musulmans comme moi. Ce sont des gens qui ont des fois très, très marquées, très ancrées. Et les chrétiens d'Orient aussi.
Et c'est du fait de leur minorité, comme ils sont minoritaires là-bas, ça renforce peut-être encore plus ce sens.
Ça renforce leur caractère de chrétien, mais de toute manière, la religiosité est très forte dans ces pays-là. quelles que soient les religions. Voilà, c'est des pays où la religion est très présente, la foi est très présente. C'est vrai aussi chez les musulmans, c'est vrai chez les druzes, chez tout le monde. Donc chez les chrétiens en particulier, parce qu'ils sont minoritaires. Et donc c'est vrai que quand ils arrivent dans des pays d'Europe où la foi est finalement grandement absente, où on vit dans une indifférence de la foi, où les gens ne se posent même pas la question, au début ça les étonne beaucoup et en fait ça les déçoit. Ils percevaient pas la France comme ça.
Et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre alors ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Ça fait 6-7 ans que vous êtes à leur contact. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent, vous, au quotidien ?
Ils m'ont appris plusieurs choses. D'abord, l'importance de la famille, parce qu'ils ont, un esprit de famille, ils ont une solidarité familiale et communautaire très forte. Et ça, j'avoue que j'ai redécouvert à travers eux toute l'importance de la famille, la manière dont ils se soutiennent les uns les autres, la manière dont ils s'entraident les uns les autres, la manière dont ils arrivent à faire une vraie communauté. J'ai redécouvert d'une certaine manière un peu la foi chrétienne aussi à travers eux, parce que j'ai pris conscience que nous, parfois, on était un peu tièdes dans notre foi par rapport à eux, que je vois la manière dont ils assument pleinement ce qu'ils sont, la manière dont ils vivent leur foi en famille, en communauté. J'avoue que ça vous remue les tripes, hein. Ça requinque dans notre propre foi et ça interroge notre, la manière dont nous-mêmes on est parfois un peu tiède, un peu timoré dans la manière dont on témoigne du Christ, alors qu'eux, ils ont témoigné jusqu'au bout parce qu'ils ont accepté de tout perdre, y compris éventuellement leur vie, pour rester fidèles à leur foi et au Christ. Alors c'est vrai que tout ça vous travaille. Moi, je sais que j'ai rencontré ces familles, je les ai côtoyées à un moment où j'étais en cheminement vers le diaconat. Ça a participé aussi à beaucoup de questions, d'interrogations, de mouvements intérieurs, comme dirait Saint Ignace, dans mon cheminement.
Eh ben, merci beaucoup. On le sent hein, que vous les avez. Ça prend les tripes, votre témoignage. Merci beaucoup, Philippe Rodier, de nous l'avoir livré. Vous êtes le cofondateur, donc, avec ce fameux Joseph, hein, de l'association ECHO. Grâce à vous, 40 familles sont rassemblées à Toulouse. Elles ont désormais une paroisse maronite, où on peut les retrouver, d'ailleurs, à les confier au Père Tagnos que nous avons reçu. Si on veut profiter de cette fougue, de cette foi des chrétiens d'Irak, on peut se rendre à la paroisse maronite de Toulouse. Merci infiniment, Philippe.
Merci Isabelle, bonne journée.